Bien, l'émission Méconnue est là pour ça. Musique éclectique d'artistes connus qui saura vous surprendre au détour. Animée par Claire Renie, les dimanches après-midi de 13h à 15h sur les ondes de CKIA FM 88.3. À dimanche.
Quoi faire en fin de semaine? En panne d'idées? Eh bien, j'ai la solution pour vous. Écoutez La Vie de quartier sur les ondes de CKIA FM tous les samedis et dimanches de 11h à midi. Revue de presse, chroniques, suggestions de sortie, c'est tout ce qu'il vous faut afin de profiter pleinement de votre week-end. En prime, j'accompagne le tout de jolies chansons francophones pour votre plus grand plaisir. Alors, je vous attends tous les samedis et dimanches dès 11h à CKIA pour La Vie de quartier. C'est un rendez-vous.
Amoureux de la langue française, il y a du nouveau sur CKIA. L'émission Le Québécois francophile sera vous divertir le samedi de 14h à 15h. Je m'appelle Olivier Marcoux et j'animerai cette heure consacrée à un artiste issu de la francophonie. Au programme, biographies, anecdotes, chansons et invités spéciaux. C'est donc un rendez-vous le samedi à 14h sur CKIA.
Bonjour, ici Chloé Sainte-Marie. Alors, vous écoutez la station la plus à gauche sur la bande FM, Skia. Je sais pas comment on dit. C'est Kaya!
Au doux brûlot de l'été, au doux brûlement du ciel, sur les veines de mes ailes, ta brise, m'appelle.
Bonjour tout le monde, vous êtes sur les ondes de CKIA FM 88.3, vous écoutez l'émission féministe et libertaire Ainsi soit-elle, et c'est la dernière émission de l'année, et pour l'occasion, toute l'équipe au complet est là. Alors Riff est là à la mise en onde, bonjour.
Allô.
Riff.
Allô.
Tiffany est là.
Salut.
Marie Meudet.
Youyou.
Evelyne.
Allô.
Et je suis là avec mes deux mois. Je suis là avec Hélène Nazon, donc avec Carl et Jasmine. Aujourd'hui à l'émission, un peu de frénésie dans l'air, je vous dirais. On est tous et toutes, oui, absolument, on a un petit bonhomme. Donc, on est tous et toutes bien excités d'être avec vous. On va commencer avec la chronique Squat ton livre. Donc, Marie va nous faire part de ses lectures et il est possible même qu'Evelyne mette son grain de sel puisqu'on est tous et toutes des lectrices. Je sais pas pourquoi j'arrête pas de pas féminiser. En tout cas, voilà. Sinon, coup de gueule, coup de cœur de Tiffaine et moi et un calendrier militant. Vous vous doutez qu'on a quelques trucs à vous plugger pour l'été qui s'en vient, qui s'annonce très chaud et plein de bonne musique. Donc, c'est le programme qu'on vous propose pour cette dernière émission. On commence tout de suite en musique. Riff, qu'est-ce qu'on va écouter?
On va commencer avec Sisters Unite.
Schwestern sind hier, um mit mir aufzustehen. Mickey, basically, you gotta come along and see. Take a seat, relax and just enjoy the ride. It's a part of life, just
Vous êtes sur les ondes de CKIA FM 88,3. Vous écoutez l'émission féministe et libertaire Ainsi squat-elle, et c'est la chronique Squat ton livre qui commence à l'instant avec Marie.
Oula, ça a l'air sérieux, Squat ton livre. Oui, là c'est à propos d'un livre qui s'appelle Les féministes blanches et l'Empire. C'est un livre écrit par Stella Magliani Belkacem et Félix Boggio et Wange Epe. Aux éditions La Fabrique, donc il se trouve quand même assez bien. Et j'ai vraiment trippé à lire ce livre-là. En fait, c'est une critique du féminisme hégémonique en France et donc une analyse du mouvement féministe français depuis quand même un bon bout de temps. Et pour montrer en gros comment le féminisme français s'est rallié finalement à l'impérialisme et au colonialisme.
Et au capitalisme.
Et au capitalisme par la suite. Et donc, à travers notamment l'exemple des opérations de dévoilement, qu'ils appelaient ça à Alger, qu'il y a eu, et donc comment des femmes étaient forcées complètement d'enlever le voile en public. Et puis, voilà, il y a aussi les exemples des suffragettes pour montrer comment elles vantaient l'œuvre civilisatrice, finalement, des femmes blanches aux colonies, et donc où les suffragettes sont analysées finalement comme un instrument de propagande coloniale. Il y a aussi une critique de ni pute ni soumise, dont on a entendu parler pas mal quand même, qui est assez médiatique, en montrant que finalement c'est un groupe, un féminisme d'État, en fait, essentiellement, donc une voie vers des politiques socialistes, mais en tout cas un lieu de formation en fait pour des politiciens, politiciennes socialistes, et montrant que dans ce collectif-là, il y a très peu de féministes qui ont une base dans les quartiers populaires finalement, donc
un féminisme très libéral.
C'est ça, un féminisme d'élite. Ce qu'elle montre aussi, et ce que les auteurs montrent aussi dans l'ouvrage, c'est donc l'aveuglement de tous ces mouvements féministes-là hégémoniques face à la double oppression en tant que femme et en tant que non-blanche, mais aussi face à une triple, voire quadruple oppression, notamment en termes d'oppression sexuelle ou quoi. Et elle montre que, enfin, je dis elle, mais non, les auteurs sont ils, mais je vais féminiser finalement. Enfin, les auteurs sont ils et elles, mais voilà. Elle montre aussi que finalement, comment aujourd'hui, quand on parle du féminisme puis du voile et tous les discours qui a eu lieu en France, mais finalement, il y a beaucoup de discours islamophobes en fait qui sont présents au sein du féminisme. Voilà. Et j'ai entre autres découvert dans ce livre-là qu'il y a eu au MLF en France une coordination des femmes noires en fait qui s'est organisée et dont on parle très très peu, parce que quand on parle de féminisme noir, on en parle aux États-Unis. Même je pense que Elsa Dorlin, dans son livre l'anthologie du féminisme noir, dit qu'il n'y en a pas eu en France. Et donc là, il y a en tout cas une petite analyse, et en fait ça renvoie à un master de maîtrise qui a été fait en France, le seul en fait qui parle de ce mouvement-là de coordination des femmes noires. Et où, parce qu'en fait, il y a eu au sein du MLF, il y a eu plusieurs groupes de coordination, mais c'était souvent au nom, de groupes nationaux. Donc les coordinations des femmes algériennes, coordination des femmes ceci, cela. Et qu'en fait, la coordination des femmes noires est la seule qui se réfère finalement à une expérience commune de racialisation, donc à ce moment-là en France. Il y a aussi un dernier chapitre dans ce livre sur l'hégémonie occidentale. Présente aussi dans les luttes LGBT, et il y a plusieurs exemples qui sont vraiment intéressantes pour montrer comment la solidarité internationale des luttes LGBT s'aligne souvent sur l'agenda impérialiste des États-Unis, donc là vraiment clairement anti-islamique, si on peut dire ça comme ça, en tout cas. Voilà, je vais vous faire une petite lecture de deux passages en fait, parce que je trouvais ça résumait pas mal ce qui était dit à propos des luttes LGBT. Je vous lis une citation donc d'une page, c'est la page 96. Donc le discours des groupes LGBT dans leur action de solidarité internationale reproduit l'hégémonie occidentale en imposant des catégories homosexuelles et hétérosexuelles à des personnes qui vivent dans des contextes où les sexualités, les identifications, les formes d'érotisation ont suivi des trajectoires complexes. Là, c'était en lien par rapport à à des là j'arrête, fin de la citation, là il y avait des justement des organismes de solidarité internationale LGBT qui venaient défendre des hommes qui avaient été emprisonnés, je pense que c'était en Iran, alors que ces hommes là se prétendaient pas, se définissaient pas du tout comme des homosexuels, mais finalement leur étiquette leur a été posée par les occidentaux qui sont arrivés, qui a dit non vous, ce que vous faites là c'est de l'homosexualité, on vous dit ce que c'est, donc voilà, donc c'est
l'arrogance.
Vraiment. Puis une petite dernière citation. Quand, pour parler du féminisme hégémonique, donc ça dit les logiques de ces actions, donc du féminisme hégémonique et de ces modes d'ordre, sont façonnées par les dynamiques que nous avons relevées donc à différentes époques. Parmi ces dynamiques, on a pu souligner l'incapacité à prendre en compte le privilège blanc dans les modes d'organisation et de politisation féministe. L'absence d'analyse matérialiste de la diversité des conditions des femmes et des sexualités, et l'inscription de la lutte féministe dans les appareils d'État et les pouvoirs publics. Or, ces logiques sont puissantes et elles jalonnent l'histoire du féminisme en France. Voilà, c'était un petit résumé de ce livre-là qui est vraiment bien intéressant puis qui fait du bien, en fait. Même aujourd'hui, là, quand on. Je me rappelle encore de discussions avec des féministes plus, on va dire, deuxième vague, qui ont finalement aussi du mal, peut-être, à
intégrer
ces grilles d'analyse-là, puis à déconstruire leur propre grille d'analyse, à penser en termes d'intersectionnalité, et puis d'oppression multiple. Donc,
parce que souvent, elles vont se sentir attaquées, justement. Mm-hmm. Puis, en tout cas, je trouve ça vraiment intéressant que ça se place en France, parce que moi, les lectures que j'ai faites sur la place, justement, sur la critique du féminisme blanc, puis la place des mouvements noirs, c'est beaucoup plus aux États-Unis. Mm-hmm. Puis le passage sur les suffragettes, je serais vraiment curieuse de voir, parce que aux États-Unis, particulièrement par rapport au mouvement pour le droit de vote, Angela Davis, dans son livre qui s'appelle « Race, classe et etc. Mm-hmm. » que j'ai lu il y a un petit bout, parle vraiment des luttes intestines qu'il y a eu au sein du mouvement. Puis comment, par exemple, lorsqu'il y a de plus en plus, pas juste sur la question du racisme, mais aussi sur la question de classe sociale. Donc, oui que c'était contrôlé, dirigé, les gens qui étaient à l'avant-plan, c'était en effet les femmes blanches, mais aussi les femmes issues des classes bourgeoises. Puis lorsqu'il y avait, entre autres, organisation de marche, ça s'est passé souvent que les sudistes, donc les femmes des États du Sud, prenaient la parole pour dire les femmes noires vont être dans un contingent à la fin de la marche, ou même au niveau des tours de parole dans les congrès. En tout cas, ça s'est vraiment passé à différents niveaux, puis ça l'a vraiment miné le mouvement. Puis dans son livre, Angela Davis, ça présente vraiment que certains groupes mettaient de l'avant la question de l'égalité des droits, mais donc d'aller chercher des droits dans une perspective libérale, donc le droit de vote, etc. Puis ça a donné lieu aussi à des prises de conscience, c'est-à-dire que lorsqu'il y a certains, il y a des mouvances dans les discussions. Comment je pourrais dire? Il y a des femmes qui prenaient la parole dans les débats pour dire, ben là, il faut qu'on ait accès au travail. Puis là, il y avait des femmes des classes ouvrières qui disaient, ben ça fait longtemps, maudit qu'on travaille. Fait qu'il faut pas juste demander le travail, il faut penser à comment le travail va être articulé, dans quel système, quelles conditions de travail, etc. Donc, ouais, vraiment des beaux sujets de discussion.
Puis je trouve que c'est particulièrement intéressant de voir aussi un livre qui est issu d'un contexte francophone qui parle des questions de race, là, qui sont vraiment... En tout cas, moi, pendant que j'étudiais aux États-Unis, on me semble que c'est un sujet qui était complètement incontournable dans les discussions féministes, dans le mouvement féministe, autant que j'ai pu le connaître, là, mais dans puis aussi dans le contexte du féminisme plus académique. Puis ici, c'est vraiment difficile d'entamer cette discussion-là. Puis c'est vraiment particulièrement pas évident de le faire avec des personnes qui n'ont pas ce background-là, qui ne l'ont pas minimalement appris de façon...
En tout cas,
c'est ça. Mais mm-hmm. En tout cas, on se retrouve à avoir un peu des fois des discussions qui nous placent dans des positions vraiment délicates de repartir, d'essayer d'expliquer que j'essaie pas de justifier non plus l'existence, tu sais, biologique ou réelle des races, mais plutôt de réfléchir aux conséquences réelles que ça a en société. Là. Fait qu'en tout cas, je trouve que c'est intéressant. Je serais curieuse de voir de quoi ça a l'air dans d'une perspective vraiment plus francophone et française. Là.
Puis francophone aussi parce que une autre difficulté, je trouve, dans les discussions, c'est simplement la traduction des termes. Tu sais, par exemple, moi, quand j'ai commencé à militer, des militants blancs de vraiment de bonne foi sont venus me voir pour me dire « Hey, il y a un congrès anarchiste qui a lieu aux États-Unis, puis on serait prêt à te payer le billet parce qu'il y a une section de discussion pour les anarchistes de couleur. » Mais tu sais, en français, « femme de couleur », là, ça réfère vraiment à un background très vieux, là, très, très, très raciste, en fait, comme appellation. Là. C'est pas du tout « black and I'm proud » and « black », tu sais, « femme de couleur ». Moi, quand je me suis fait dire ça, je voulais leur arracher la tête. Là. J'étais comme vraiment fâchée. Fait que comme, je serais curieuse de voir justement comment ça se traduit dans la terminologie, en tout cas. Tu nous as bien donné le goût de lire ce livre. Quelle excellente chronique. Squat ton livre. Donc, on passe en musique, puis ensuite, on va revenir avec nos coups de gueule et coups de cœur de l'année.
Ben, on va continuer avec les Sisters. On va écouter Gender Riot.
Peace, the more democracy. But hate and racism, so we can.
rappelle cette semaine sur les ondes de CKIA FM, puisque c'est la dernière émission de la saison, Tiffaine et Hélène nous ont préparé leur coup de gueule et coup de cœur de l'année. Donc, Tiffaine, tu commences par le coup de cœur ou le coup de gueule?
Ben, c'est un coup de gueule. C'est pas, peut-être pas un coup de gueule de l'année, mais ça s'inscrit dans le thème de l'année où on a eu plus de coups de gueule que de coups de cœur, il me semble. C'est simplement qu'aujourd'hui, je suis tombée sur un article que j'ai trouvé assez intéressant, qui était publié sur Urbania, pas vraiment un site qui m'inspire d'habitude, mais référé par une féministe. Fait que je me suis dit, je vais jeter un coup d'œil. Des fois, on perd du temps sur Facebook, puis on se fait à croire qu'on fait quelque chose de pertinent en cliquant sur des liens. Fait que voilà, ça s'appelait Libido, l'utérus à le dos large. Fait que je me suis dit, bon, je vais jeter un coup d'œil. Puis c'était un article qui faisait suite à deux articles qui ont été publiés en mars et avril. Donc, c'est ça, sur le site d'Urbania, par une auteure qui s'appelle Sarah Labarre, que je connais pas, mais j'ai trouvé que c'était assez intéressant ce qu'elle racontait. En fait, son premier article, là, pour remonter un petit peu dans le temps, mais pas trop loin quand même, c'était sur son expérience avec les contraceptifs de troisième génération. Donc, certaines des pilules contraceptives, là, comme Yasmine, aussi le NuvaRing fait partie de ça. Puis bon, comme j'ai eu une expérience plus ou moins concluante avec ce moyen de contraception-là, je trouvais que c'était intéressant de voir. Puis moi, je trouvais que mon expérience avait été poche, puis j'avais eu des mois vraiment difficiles. Puis en lisant ça, j'étais là, ah, OK, j'ai vraiment eu comme... Ça a été un moindre mal dans mon cas, là, genre une petite déprime, ça file pas fort, machin. Puis il y a des femmes qui ont, dans le fond, elle a publié cet article-là sur son expérience, puis ensuite elle a fait un appel à témoins pour demander donc aux femmes dans son réseau, puis qui s'est élargi rapidement, de donner leur point de vue ou de raconter un peu leur histoire. Puis il y a plein de situations vraiment, ben tu sais, ça fait un peu, c'est super épeurant en fait là. Il y a carrément des femmes qui ont eu des problèmes de santé graves, qui ont des séquelles à long terme. Dans certains cas, c'est genre des problèmes de santé graves qui s'arrêtent immédiatement quand les femmes ont arrêté de prendre le moyen de contraception en question. Soit, donc, c'est ça, des fois, c'est avec Alès, avec le dépôt Provera, le Minobral. Je me suis pas plongée dans les recherches sur qu'est-ce que c'est ça, les contraceptifs de troisième génération, mais en gros, c'est des contraceptifs qui sont prescrits facilement, rapidement, par des médecins, des infirmières praticiennes, auxquelles on a accès très facilement, puis c'est super d'y avoir accès, puis l'idée, c'est pas de remettre en question l'accès à la contraception, mais plutôt de se poser des questions sur qu'est-ce qu'on se met dans le corps avec toutes ces hormones qui nous sont... Tu sais, qu'on se fait pas vraiment expliquer les désavantages, les effets secondaires et tout ça. Puis des fois, c'est un petit peu... En tout cas, dans mon cas, c'est un peu par dépit parce que j'avais essayé de demander autre chose puis finalement, ben de me faire toujours... Ah non, ça, non, il y a plein... Dans le fond, de me faire vraiment vendre... Je me reconnaissais dans cette histoire-là de se faire vendre les contraceptifs hormonaux. Puis, donc, c'est ça, il y a plein de problèmes qui sont soulevés. Puis, entre autres, le fait qu'il y a plusieurs de ces contraceptifs-là qui devraient être pris uniquement seuls dans certains cas, mais on se rend compte que les médecins posent pas beaucoup de questions, vont pas vraiment vérifier s'il y a d'autres moyens qui ont été testés avant, donc pas vraiment vérifier l'histoire... familial, l'historique médical de la famille et tout ça, ce qui pose vraiment problème. Puis un des problèmes qui a été soulevé, mais dont elle parlait pas, donc Sarah Labarre, dans les premiers articles, puisqu'elle s'est concentrée sur des éléments qui étaient plus dramatiques, là. Il y a des femmes qui ont fait des ACV, des phlébites, vraiment, tu sais, des problèmes de santé importants, puis qui se retrouvent, par exemple, là, à devoir porter des bas de contention à long terme, ou tu sais, des choses qui sont quand même très graves, puis des dépressions importantes, donc des problèmes de santé graves. Puis là, elle dit, il y a plusieurs des femmes qui ont témoigné, qui disaient, un peu entre parenthèses, un peu en s'excusant, « Ouais, c'est pas aussi grave, mais ma libido en a pris un coup aussi au passage. » Puis, on peut soupçonner qu'il y a des femmes qui en ont pas parlé parce que c'était peut-être le moindre de leurs problèmes. Évidemment, quand tu fais un ACV, peut-être que ta libido, c'est pas comme le premier truc auquel tu penses. Carl est full d'accord avec la remise en question des contraceptifs hormonaux de troisième génération. Donc, c'est ça, elle dit que sur les 150 témoignages de femmes qu'elle a reçus, il y a 26 femmes qui disent avoir perdu tout désir sexuel, donc complètement... c'est une absence totale de libido. D'autres qui avaient de la douleur ou de l'inconfort dans leur rapport sexuel. Tout ça pour dire, en effet, peut-être que c'est un problème qui est moins dramatique que certains des effets secondaires graves qui ont été relevés. Puis d'ailleurs, tu sais, il y a des poursuites, il y a des recours collectifs contre certaines des compagnies, là, entre autres Yasmin. Mais c'est un problème grave, puis c'est un problème qui est pas reconnu du tout, qui est pas pris en compte par les professionnels de la santé qui prescrivent des contraceptifs sans vraiment s'intéresser au fait que ça peut avoir cette conséquence négative là aussi, puis que vraiment, ben tu sais, ça continue de s'inscrire dans toute une culture médicale qui s'intéresse pas du tout au plaisir sexuel, puis qui
se... des femmes
en particulier, parce qu'on sait que le Viagra et compagnie, ça fait
ça pleut.
Voilà, tu sais, puis que ça, c'est vraiment pas quelque chose qui a été mis de l'avant, puis qui semble être important, puis c'est pas quelque chose que les médecins ou les professionnels de la santé vont vérifier auprès de leurs patientes, à savoir est-ce que c'est un des effets négatifs que les contraceptifs hormonaux peuvent avoir. Puis même dans les commentaires, tu sais, évidemment, les commentaires dans les sites Internet, c'est toujours décourageant. Mais il y avait justement là, plusieurs trucs du genre, ben là, tu peux pas tout avoir, arrête de chialer. Mm-hmm. Tu sais, genre, tu peux pas tomber enceinte, c'est assez, là, fait que relax ton thorax. Puis, tu sais, fait que, en tout cas, c'est donc, petit coup de gueule, je vous invite quand même à aller lire ces articles. Je trouve que c'était assez intéressant. Le premier est vraiment percutant, donc, qui s'appelle « La fois où j'ai servi de cobaye ».
Ce qui est problématique avec ça aussi, tu sais, c'est le cas pour d'autres médicaments, par exemple les antidépresseurs, c'est que quand on t'informe pas de l'effet secondaire qui peut arriver, toi, premièrement, tu commences à te sentir bizarre. Exemple, supposons perte de libido ou n'importe quoi. Mais là, tu te questionnes, c'est individuel, tu sais, tu dis, coudonc, c'est-tu moi, je suis folle, ben c'est peut-être parce que je suis pas, ou bon, je suis trop douillette, puis là, finalement, des fois, tu le sais pas, ou finalement, tu lis un peu là-dessus, ou t'en parles avec d'autres personnes, puis là, tu te rends compte que, dans le fond, c'est normal, finalement. Fait que, en fait, que c'est un effet secondaire, que c'est normal, que c'est pas dans ta tête, ou que c'est pas toi qui as un problème, ou que c'est pas relié à une autre maladie, par exemple. Fait que c'est assez problématique dans ce sens-là aussi. C'est que, c'est ça, on sait pas qu'est-ce qu'on ingurgite, puis on se questionne sur les effets secondaires. Fait que c'est très bad.
Oui,
c'est très bad, comme quelqu'un que je connais dire.
Puis particulièrement, ce qui est particulièrement bad, c'est que non seulement on se le fait pas dire toujours, mais dans certains cas, il y a pas d'études claires pour trouver c'est quoi ces effets secondaires-là qui peuvent survenir, entre autres avec le NuvaRing. Puis moi, j'étais interpellée parce que c'est ce que j'ai pris deux, tu sais, pendant deux périodes séparées, ça m'a pas plu, puis j'ai réessayé encore. Puis les deux fois où on me l'a prescrit, il y a jamais personne qui m'a posé les questions que l'auteur dit qui sont censées être préalables à cette prescription-là, notamment que t'as de la difficulté à prendre la pilule, puis tu sais que donc vérifier vraiment dans les antécédents familiaux. Puis tu sais, finalement, souvent la question c'est ben, as-tu eu ça là, tu sais. C'est comme oui non là, tu sais, c'est pas il y a pas de vérification réelle qui est faite, puis c'est pas clair que pour tout le monde l'histoire médicale familiale, c'est comme des événements qu'on connaît sur le bout des doigts.
Non, mais non,
peut,
pas du tout.
Fait que c'est assez bref, c'est assez questionnant. On mettra des liens sur le site si ça vous intéresse.
Si vous voulez cliquer puis avoir l'impression de faire quelque chose.
Exact.
C'est bon.
Puis toi, Hélène, c'est un coup de cœur que tu nous as préparé?
J'ai préparé un coup de cœur et un coup de gueule. On peut y aller en alternance dans un merveilleux esprit dialectique. Ben donc, je vais y aller donc avec mon coup de cœur. Donc, mon coup de cœur, c'est vraiment pour les personnes qui sont derrière la campagne « Sortons les poubelles, sortons les radios poubelles ». Vous en avez peut-être entendu parler. Donc, ça s'est passé essentiellement sur les réseaux sociaux. Entre autres, il y a le site sortonslespoubelles.org avec un triple W avant aussi. Mais aussi, il y a eu deux pages Facebook, entre autres, qui ont beaucoup diffusé cette campagne-là. Donc, campagne, évidemment, donc qui cible un phénomène particulièrement merveilleux qui est les radios poubelles. Donc, on pense à Choir, on pense au 98.1. Donc, vous connaissez le concept un petit peu. Des animateurs qui font à peu près zéro recherche, qui prennent les actualités et qui opinent savamment à l'aide d'un vocabulaire souvent très élevé et qui ne véhiculent pas du tout tout ce qu'on peut appeler de préjugés racistes contre différentes classes sociales, contre les travailleurs, contre les syndiqués, contre les femmes, etc. Donc, cette campagne-là, c'est assez intéressant justement parce que on le sait qu'il y a clairement un problème au niveau de l'idéologie qui est diffusée sur ces radios-là, qui est essentiellement très haineuse. D'ailleurs, il y a un livre qui va sortir bientôt, qui est publié par le non pas le blog, mais le collectif Emma Goldman, qui est un collectif anarchiste au lac Saint-Jean et qui s'appelle les Vendeurs de haine.
Au Saguenay, je pense.
Du Saguenay? Oui, je sais toujours... en tout cas, dans le... Oui, c'est ça. Donc, les Vendeurs de haine, donc pour parler comment ce discours-là alimente donc les préjugés et ce qui est problématique aussi, c'est évidemment la popularité de ces radios poubelles-là. Moi, je peux vous en parler. En tout cas, au cégep où j'enseigne, tous les étudiants et les étudiantes, ça transparaît dans les débats, dans les discours qu'on a. Ils écoutent tous et toutes cette radio-là et c'est les arguments qui tiennent souvent en une phrase, hein. Entre autres, les radios poubelles, leur dernière campagne, c'est tout simplement « écœuré de payer ». Hein? Donc, pas d'argumentaire, rien, c'est tout simplement « on est écœuré de payer ». Mais on entend très bien c'est quoi en arrière. Tu es écœuré de payer pourquoi? Ben pour les maudits BS, pour les immigrants, pour les étudiants, pour les programmes sociaux, finalement. On entend très bien c'est quoi qui est en arrière, mais il n'y a aucun argumentaire derrière ça. Et inutile de dire que le sport, hein, le retour des Nordiques, quel enjeu important. Donc, le sport, les pitounes aussi, entre autres, pour la fête des mères dernièrement. Je sais plus c'est dans laquelle des radios poubelles. Il me semble que sur 98.1, c'était le concours « La maman la plus sexy ». Puis on parlait des commentaires tantôt, donc des femmes qui étaient invitées à envoyer leurs photos pour montrer que même si elles ont des enfants, hein, sont capables d'être cochonnes. Et bon, les gars qui commentaient, je pense que je répéterai même pas, vous devinez à quel point c'était, je dirais, Cyrano de Bergeracien comme commentaire. Donc, tout ça pour dire qu'il y a des personnes qui en ont marre et qu'il y a une campagne qui cible les annonceurs. Donc, ils se sont dit, parce qu'on a un problème avec les radios poubelles, donc comment faire pour passer au-delà de la question de la liberté d'expression? Même dans le milieu de la gauche, en fait, c'est très divisé. Est-ce qu'on doit exiger la fermeture? Est-ce qu'on doit passer par l'institutionnel, donc par des plaintes au CRTC, etc.? Les gens s'entendent pas. Et donc, ils ont décidé de faire une campagne où ils ciblent les annonceurs. Donc, il y a, entre autres, une lettre qu'on peut envoyer, que ce soit au Couche-Tard, à Rona, au Rotisserie Saint-Hubert, entre autres, mais également, dans le fond, donc il y a cette lettre-là qu'on peut envoyer qu'on peut envoyer aux annonceurs, mais aussi, ils ont, en fait, mis sur la page Facebook et sur le site web des grandes affiches où on a des citations vraiment... vraiment succulente, je dirais, et criante de vérité des animateurs de choix. J'en ai pris quelques-unes, juste pour se faire plaisir. Entre autres, 80% des stupidités qu'on voit au volant sont des femmes. Hein? D'abord, les femmes sont des stupidités. En tout cas, on commencera pas une analyse syntaxique de la chose. Mais l'idée de la campagne, c'est de mettre ces citations-là et d'écrire « Ceci a été payé par Couche-Tard, par exemple, ou par les Rotisseries Saint-Hubert. » Puis là, ensuite, évidemment, il est écrit en plus petit « Non, ça n'a pas été payé. » Mais comme ils placent des annonces sur ces radios-là, à un moment donné, assumez-vous. Autre citation aussi, pendant la grève, Sylvain Bouchard qui proposait à la police de rentrer dans le tas, hein, entre guillemets, tout en se questionnant sur la nécessité possible d'une intervention armée. Aussi, que les féministes sont frustrées, etc. On s'entend que c'est pas très original, mais bon, plein de propos comme ça aussi qu'il faudrait, par exemple, castrer les personnes à cité sociale ou les envoyer dans le Nord. Donc, vraiment, on a tous les annonceurs sur les affiches qui sont là et ça l'a vraiment... évidemment provoqué tout de suite une réaction assez forte, entre autres de la part de Patrice Demers, qui a envoyé une mise en demeure et vraiment harcelé la personne qui tient la page Facebook, en fait, parce que cette personne-là a commencé à le dénoncer, parce que les gens ont vraiment embarqué dans la campagne, là, autant les publicités... mais dans le fond, les fausses publicités là, ont été diffusées. Autant il y a beaucoup de gens qui ont écrit des lettres aux différents annonceurs. Puis je voulais vous donner la réponse entre autres de Couche-Tard qui a répondu. Ben écoutez, on choisit évidemment qu'on peut pas deviner ce que les animateurs vont dire. On choisit où on place nos annonces selon notre clientèle. Et la personne qui a publié l'échange courriel qu'elle a eu avec sûrement une personne au comme de Couche-Tard, on s'en fera pas à croire, répondu dans le fond, a continué le dialogue en disant ben non, c'est sûr que Couche-Tard, qui a des pratiques complètement antisyndicales, n'est pas du tout au courant que les syndicats sont pas choyés, je sais pas comment dire, dans ces stations-là. Donc, en tout cas, ça fait beaucoup de bruit. Et donc, c'est ça. Patrice Demers a envoyé une mise en demeure à la personne qui gérait la page Facebook, exigeant qu'elle retire le logo, exigeant enfin plein de choses. Et ça m'a fait penser, en tout cas, je vous en... Bon, je vais finir en deux points. Premier point, je vous invite vraiment à participer à cette campagne-là parce qu'on le voit, ça fait bouger les choses. C'est ce qui fait mal à ces radios-là, c'est que on s'attaque aux annonceurs. Puis c'est sûr que s'ils perdent des sous, ça va pas tout changer. Moi, je vous dirais, c'est rare que je dise ça dans d'autres débats bien connus. Je dirais pas que je suis abolitionniste, mais là-dessus, je vous avoue que les radios poubelles, en tout cas, j'ai vraiment un grave problème avec ça. Donc ça, c'était mon premier point. Participer à la campagne. Et deuxième point, je voulais vous faire un parallèle historique, c'est-à-dire que lorsque je travaillais au journal communautaire Droit de parole, on avait fait exactement le même type de campagne, mais sur une période beaucoup plus brève. Puis au sein de notre petit journal qui est à 30 000 exemplaires, mais nous, ça avait été la même chose. On avait vraiment publié sur deux pages les différents annonceurs qui étaient à choix à l'époque. On avait fait notre une sur choix également. Et ça avait été la même réponse, la même tactique que c'était Patrice Demers aussi à l'époque qui avait envoyé une mise en demeure à Droit de parole. Et nous, bon, il n'y avait pas vraiment eu de rétractation. Tout ce qu'on avait fait, c'était de pas poursuivre la campagne, de pas la republier. On s'était fait reprocher à l'époque parce que les gens avaient dit « Ben non, vous auriez dû faire une conférence de presse pour dénoncer que vous aviez été intimidé, etc. » Puis là, on avait dit « Ouais, mais tu sais, en même temps, ça serait le fun que le journal communautaire qui existe depuis 30 ans existe encore 30 ans, puis on n'a pas les rangs assez solides, puis où sont les appuis, tu sais? » Puis en voyant cette campagne-là, la même réaction, je me disais « En tout cas, il y a bien des critiques à faire sur les réseaux sociaux, mais en tout cas, sur ce type de campagne-là, c'est vraiment efficace. Puis en fait, je serais curieuse de savoir comment Patrice Demers a pu avoir l'identité de la personne qui gérait la page Facebook, parce qu'encore une fois, il y a moyen, des fois on le dénonce qu'il y a un anonymat dans les réseaux sociaux, mais bon, des fois, comme pour Anonymous, ça peut être sacrément intéressant. Donc vraiment, mon coup de cœur, cette campagne contre les radios poubelles, qui n'est pas terminée, je vous le rappelle, www.sortonslespoubelles.com, sinon sur Facebook aussi, ça se trouve facilement, et ça ne prend qu'un simple clic pour faire savoir à ces radios que vous n'endossez pas leurs propos.
Puis j'en profite aussi pour dire qu'il va y avoir un lancement à Québec du livre donc dont tu parlais tantôt, le lancement de Radio X, Les vendeurs de la haine. Puis ça a lieu à la librairie Saint-Jean-Baptiste le 5 juin prochain à partir de 19h. Puis il semblerait qu'il y aura aussi la présentation d'une pièce de théâtre qui utilise les mots de la radio poubelle. Fait que ça sera pour les gens qui ont vraiment qui sont vraiment game, cœur sensible, s'abstenir probablement. Mais voilà, tout l'invitation est lancée puis circule sur Facebook depuis un petit moment. Voilà.
Ben avant de passer à ton coup de gueule, Hélène, je pense qu'on pourrait écouter un petit peu de musique parce que ça fait un petit moment qu'on parle et je suis sûre que Riff nous a préparé de l'excellente musique.
Ouais, là on va changer de style, on va écouter La vie tourne de Marianne Trudel. Thank you.
CKIA FM 88,3. Vous écoutez Ainsi Squat-t-elle, votre magazine féministe et libertaire favori. Et toute la famille est présente toute cette semaine pour faire notre dernière émission de la saison. Et on va conclure ça avec un coup de gueule parce qu'on aime ça. Hélène, de quoi tu as envie d'opiner?
Sur quoi
tu as envie d'opiner
en fin d'émission? En fait, j'y pensais pendant la chanson, c'est un coup de gueule, mais c'est surtout en fait un coup crève-cœur, je trouve. Puis c'est vraiment tout ce qui entoure le backlash, j'appellerais ça comme ça, le backlash après le suite au printemps étudiant, suite à toute la mobilisation qu'il y a pu y avoir, la création de contacts, l'émergence de plein de collectifs autonomes, les profs, les infirmiers, etc. Vous m'avez entendu beaucoup en parler, les étudiants, les étudiantes aussi, mais vraiment ce qui a été spécifique à cette lutte-là, c'est clair, on en a parlé à plusieurs reprises, c'est l'appui des mouvements sociaux, puis comment le slogan au début qu'on trouvait mignon, mais bon, pas si réaliste que ça, c'est-à-dire... La grève est étudiante, mais la lutte est populaire. C'est vraiment concrétisé, entre autres avec les profs, les parents contre la hausse, hein, et les mères en colère et solidaires, etc. Et ben, force est de constater un an plus tard que les conséquences, c'est-à-dire la répression, toute la répression qui a suivi, et les gens vivent encore avec avec des charges, avec des conditions. Il y a des procès qui n'ont pas encore eu lieu. Je pense entre autres aux personnes qui avaient été accusées, qui avaient vraiment eu des charges en lien avec le terrorisme. On se souvient de l'histoire des fumigènes dans le métro. Bon, ça, heureusement, c'est tombé récemment. Quand même, en échange que l'enquête préliminaire soit retirée, ça, les gens ont mis moins l'accent là-dessus, mais quand même, c'est assez important. Donc, toute la répression qu'il y a eu, et aussi notre, visiblement, là, quand je dis nous, je parle des mouvements sociaux, notre difficulté à obtenir justice par rapport à ça. Et là, je réfère à la commission d'enquête indépendante sur ce qui s'est passé sur la répression qu'il y a eu pendant le printemps étudiant. Il y a eu des pétitions, il y a eu une lettre qui a été publiée dans les journaux qui avait été signée par une quarantaine de groupes. Il y a eu de multiples et multiples conférences de presse après Victoriaville. À la fin de l'été également, ça a été relancé aussi à Québec, conférence de presse du REPAC, de la Ligue des droits et libertés. Il y a de les profs contre la hausse à ce moment-là également. Il y a eu de multiples organismes internationaux aussi qui ont essayé de lancer un cri, mais pas qui ont essayé, qui ont lancé des cris d'alarme pour dire que la situation de ce qui se passait au Québec pendant le printemps étudiant et les suites également qu'on pense à l'adoption du règlement sur la loi et le bon ordre à Québec ou sur P6 à Montréal, c'est que suite à cet important mouvement social, ou en tout cas ce qui est appelé par d'autres la crise sociale, c'est un peu comme ce qui s'est passé après le Sommet des Amériques. J'explique ma comparaison. Pendant le Sommet des Amériques, il y a des caméras qui ont été installées sur la rue Saint-Jean, etc., justifiées par le fait qu'il fallait surveiller, mais les caméras sont restées. Bien, c'est un petit peu la même chose qui se passe avec le printemps étudiant, c'est-à-dire qu'un an plus tard, bien, on est pris avec P6, avec la loi sur le bon ordre à Québec, etc., et on peine à, en fait, visiblement, le rapport de force est moins fort et on n'arrive pas à obtenir cette commission d'enquête et à faire la lumière et à sortir de cette impunité que les policiers ont eue. Et pas seulement les policiers, mais aussi, pas seulement les corps policiers, mais les personnes qui étaient au pouvoir également. Puis là, ce qu'on voit en ce moment, c'est que finalement, il va y avoir une espèce de commission d'examen à huis clos où les personnes ne seront pas forcées de comparaître et où ça a été complètement détourné. C'est-à-dire que visiblement, le PQ cherche à faire le procès des libéraux. C'est rare que je veux dire la même chose que les libéraux, mais là, clairement, c'est ce qui est là dans la commission. Ce qui a été annoncé, c'est entre autres d'observer quels facteurs aussi ont mené à cette crise sociale-là, donc essayer d'identifier pourquoi il y a eu un aussi grand mouvement social. Donc, c'est vraiment un peu, je vous dirais, c'est vraiment mon coup crève-cœur de l'année de voir qu'on a eu des gains, etc. Bon, quoi que... On peut en discuter longtemps. Est-ce que ça a été une victoire ou pas au niveau de la lutte étudiante? En tout cas, sur la question spécifique de la hausse des frais de scolarité, on est rendu avec une indexation. Donc, pour plusieurs militants et militantes, ça a été une défaite. Bon, moi, je reste quand même plus optimiste. Puis, je pense que les réseaux, les liens qui se sont faits demeurent. Puis, qu'on a pu voir que ça se passait pas seulement ailleurs. Puis, qu'il y avait moyen que des gens sortent dans la rue... puis s'organise de manière autonome, mais le prix à payer est énorme, puis lors de la fête des maires récemment, les maires en colère et solidaires ont fait une conférence de presse et ont invité les gens à à participer à la campagne de lettres où elle s'adressait à Mme Marois en tant que maire. Bon, en tout cas, ça, on pourrait en discuter, mais en tout cas, l'essentiel, je pense que c'était un prétexte, puis l'essentiel de leur lettre, c'était de relancer l'idée que c'était vraiment important, pertinent, absolument nécessaire pour la santé démocratique du Québec, qu'il y ait une commission d'enquête pour mettre en lumière que vraiment, il y a eu des abus, il y a des gens qui se sont fait péter la gueule, mais royalement, puis ça, en toute impunité. Qu'est-ce qu'on va faire avec P6 à Montréal? À Québec, on est un petit peu... pas chanceux, mais en fait, comment ça s'est passé, la situation, c'est qu'à Québec, on l'a vu vers la fin, à partir du milieu de l'été, puis même vers la fin, systématiquement, étant donné que les gens étaient peu nombreux aux manifestations, c'était souricière sur souricière et des arrestations de masse. Maintenant, c'est ce qui se passe à Montréal en ce moment avec P6, étant donné qu'il y a moins de monde, c'est souricière sur souricière. Donc, quelle stratégie on va pouvoir mettre de l'avant, mais voilà, c'est un peu, ça finit sur une note triste, mais c'est mon coup crève-cœur de l'année.
À suivre. Et puisque c'est notre dernière émission de la saison, on va vous faire un calendrier qui couvre un petit peu plus qu'une semaine. Alors, Tiffaine, quelles activités sont à ne pas manquer dans les prochaines semaines à Québec?
Oui, donc, pour commencer, dans les prochaines heures, en fait, dans la prochaine heure, il y a la conférence publique dans le cadre de l'Université féministe d'été qui aura lieu sur le thème « Cerveau, sexe et préjugés » par une neurobiologiste. C'est quand même assez rare, là, des scientifiques féministes. Donc, voilà, sur... dans le fond, l'objectif de la conférence, c'est de comprendre le rôle de la biologie, mais aussi l'influence de l'environnement social et culturel dans la construction des identités d'hommes et de femmes. Donc, rien qu'on n'a pas encore entendu, mais qui sait, il y aura peut-être des belles découvertes à faire. Donc, voilà, c'est dans une demi-heure à peu près, jusqu'à 21h, ce soir à l'amphithéâtre 1C du Deconinck à l'Université Laval. Ensuite, le 24 mai, donc ce vendredi, une soirée sur les résistances autochtones au Canada. Ça va être une conférence de Gord Hill de la nation Kwakwaka'wakw. J'espère que je le prononce comme il faut, qui est auteur d'un livre sur 500 ans de résistance indigène, ou en tout cas autochtone, mais je faisais de la traduction à vue, ça a peut-être pas été un grand succès, mais donc c'est un livre de bande dessinée sur ce thème-là, et ça va être donc cette personne-là, Gord Hill, qui va nous entretenir là, des résistances autochtones des 500 dernières années peut-être, où on verra si probablement que ça fait fait pas mal de temps. Donc, c'est ce vendredi 24 mai à partir de 19h à l'AJT, donc 251 Dorchester à Québec. Et puis, toujours à l'AJT, vu qu'on a tendance à annoncer la programmation complète de l'AJT, le 5 juin, il y a une grande première à Québec. C'est la première soirée queer de la ville qui s'appelle Queer Intrusion. Donc, il y aura des DJ invités. Et puis, c'est donc une invitation comme l'annonce, là, l'invitation officielle à tous les déviants sexuels, les genderbenders et leurs alliés, à celles et ceux qui n'aiment pas l'idée d'être limités par les stéréotypes de genre, parce qu'il est grand temps de prendre notre place dans la ville de Québec. Donc, c'est une soirée de socialisation sans phobie, sans isme et sans préjugés pour discuter, arroser ou s'arroser, semblerait-il, danser et vous amuser. Et puis, pour les personnes qui seraient donc pas nécessairement au courant de qu'est-ce que ça veut dire queer, les personnes qui organisent la soirée nous proposent comme définition que ça regroupe toutes les personnes qui subissent des discriminations en raison de leur orientation sexuelle ou de leur identité de genre, mais que ça a aussi une forte dimension antisexiste et antiraciste, puis que ça comprend donc toutes les personnes qui s'inscrivent dans l'arc-en-ciel LGBTQA et compagnie. Donc, voilà. Puis aussi, comme je disais tout à l'heure, donc le lancement à Québec du livre du collectif de l'UCL au Saguenay qui aura lieu donc le 4 juin à l'AJT, si je me souviens bien, ou le 5. On mettra tout ça sur le site web qu'on essaie de mettre à jour maintenant vraiment plus vite. Donc, ça vaudra la peine d'aller vous référer là si vous êtes intéressé à ce qu'on se croise dans une de ces super soirées.
Bien, merci beaucoup, Sven. C'est déjà la fin. Est-ce qu'on finit sur quelques notes de musique, Riff?
Ouais, on va finir avec Selassou, This World.
Bon été, tout le monde! Hey. Oh, oh.
Rencontre d'une personnalité qui vous fera partager sa pratique artistique ou culturelle et découvrir la musique au cœur de son identité. Rendez-vous à l'émission Mondes musicaux avec Christine Borello tous les vendredis à 11h sur les ondes de CKIA 88.3.
Amoureux de la langue française, il y a du nouveau sur CKIA. L'émission Le Québécois francophile sera vous divertir le samedi de 14h à 15h. Je m'appelle Olivier Marcoux et j'animerai cette heure consacrée à un artiste issu de la francophonie. Au programme, biographie, anecdotes, chansons et invités spéciaux. C'est donc un rendez-vous.